sont venus voir le lieu avec moi. On s'est promené dans la ville, on s'est imbibé de la ville, ils se sont imbibés de la ville. Tous ces artistes, je les connais, je travaille avec eux, parfois depuis très longtemps, et en amont dans mon esprit, je savais que, ah, ça serait bien que s'il réagissait, et je vois tellement bien le cactus de Sibérie de Richard Di Rosa dans ce magnifique paysage du jardin méditerranéen, je vois tellement bien Vincent Barré avec sa rigueur minimaliste dans cette cour du musée, je vois tellement bien, etc., la licorne de Sabaté surgir dans ce bassin du parc Saint-Louis, et ben voilà, les choses se sont faites, parce que tout ça est une question d'échange, de dialogue. Pour certains, ou du moins pour une d'entre elles, pour Raphaël de Broissia, elle a souhaité réaliser une œuvre sur place. Aussi, il faut le savoir, elle est, elle, de l'autre côté de la France. Elle est du côté d'Annecy. Donc, voilà, c'était... elle ne pouvait pas être souvent là, ou... Donc, elle a profité, parce qu'elle va souvent à Trouville, elle a profité d'un déplacement pour s'imbiber de la ville et avoir envie de créer cette pièce dans cet écho avec, je le disais, des images des vitraux de la cathédrale. Donc, tous, ils ont vraiment vécu le lieu.
On l'évoque, il y a l'exposition, mais autour de cette exposition, et tu l'abordais tout à l'heure, l'importance de la médiation qui peut être faite autour. Il y a un programme de médiation, d'atelier qui sera fait durant toute la période de cette biennale.
Absolument.
C'est-à-dire de samedi 23 mai jusqu'au 20 septembre. Il y aura des animations, des ateliers, des choses qui sont proposées tout au long de la biennale.
Il y aura des séances de bien-être. Hein, tout ça, c'est dans le document qui est apporté de tous les publics. Donc le 14 juin, une séance de bien-être, une autre le 5 juillet. Il y aura des petits rendez-vous de l'art contemporain en juillet et en août. Il y aura un atelier avec l'une des artistes, avec Raphaël de Broissia, justement, le 18 juillet. Et puis il y aura des jeux d'artistes le 19 juillet. Et enfin, un atelier aussi, à nouveau, avec Michel Nattier au début du mois de septembre, le 5 septembre. Donc c'est une biennale qui est très vive, très prospective, et qui est destinée à appeler l'autre, c'est-à-dire le visiteur, et à lui faire partager notre passion, parce que finalement, c'est le mot clé de ce rapport à l'art.
Et comme tu le disais, on vous invite à aller consulter le programme qui se trouve sur internet à culture.evreux.fr ou la brochure, parce que c'est plus de 30 propositions qui sont faites. On ne va pas les égrener parce que ça va être
long et
pas intéressant.
Juste en ajouter une, c'est à partir du 12 juin, l'exposition qui va se tenir à la Maison des Arts de Jean-Marc Thomen, qui est inclus dans l'aventure de la Biennale.
Eh bien, je te propose une dernière pause musicale avant que nous arrivions à la conclusion pour placer le maximum de choses qu'on aurait oublié de raconter. Mais juste entre deux, on écoute les Vulves Assassines avec Louise Michel. Les Vulves Assassines avec le titre Louise Michel.
Oh bah c'est bien, et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors? Sans ça être, oui.
Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Et nous arrivons à notre dernière ligne droite, en fait à notre ligne de sortie même. Nous sommes toujours avec Philippe Piguet, commissaire d'exposition de la Biennale d'art contemporain d'Évreux. Et puis globalement, il nous reste 30 secondes pour conclure à peu près. Hein. C'est ça l'idée, Philippe. Est-ce qu'il y avait des éléments hyper essentiels à insister?
Peut-être rappeler que la Biennale, c'est du 23 mai au 20 septembre, donc il y a beaucoup plus que 30 secondes pour y aller, qu'il faut y aller absolument, et puis se laisser emporter par tout ce qu'on propose, quel que soit les réactions, parce que finalement, il y aura des réactions positives, il y aura des réactions négatives, mais surtout, qu'il y ait des réactions.
Et c'est ça l'essentiel. Moi, sur ces visites d'expo en extérieur, de biennale notamment, c'est super quand on descend boire un coup en ville. On n'est pas obligé de faire tout le parcours. On fait le petit tour avant de retourner à la voiture, avant de rentrer.
Absolument, on pioche ici, on pioche trois trucs. Là, et puis voilà.
Et la fois d'après, quand on ira au resto à un autre endroit, on ira faire un petit tour ailleurs. Et la fois d'après, quand on ira voir un copain, on ira faire un petit détour pour voir le reste. On a le temps. C'est ça l'idée.
Bravo à la ville d'Évreux de mettre l'art contemporain dans la rue.
Merci beaucoup Philippe Piguet d'être passé par nos micros. Nous, on vous souhaite une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.
Il est midi ici à Paris, 10h en temps universel. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une, le sommet de l'OTAN en Suède va-t-il être le lieu d'une nouvelle passe d'armes entre Américains et Européens? L'administration Trump souffle chaud et le froid, mais est constante dans ses attaques contre les fondements de l'Alliance Atlantique et fustige des alliés qui ont refusé de la suivre dans sa guerre au Moyen-Orient. Dans ce contexte, diversifier les partenariats pour moins dépendre des États-Unis est un objectif commun de l'Union Européenne et du Mexique. C'est l'objet d'un sommet commun aujourd'hui. Et puis en Turquie, la justice a décidé de suspendre la direction du principal parti d'opposition. Le CHP avait remporté une large victoire contre l'AKP du président Erdogan aux élections locales de 2024. Aujourd'hui, ses partisans dénoncent un nouveau coup de force du pouvoir. Reportage à suivre. Bien sûr, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est réjoui de l'annonce surprise de Donald Trump d'envoyer 5000 militaires américains supplémentaires en Pologne. Mais ça ne change pas le constat européen. Il est urgent pour assurer la sécurité du vieux continent de s'organiser pour moins dépendre des États-Unis et pour se soustraire à la menace permanente d'un désengagement de Washington. C'est dans ce climat tendu que les 32 ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont réunis à Helsingborg. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a donné le ton avant même d'atterrir en Suède. Il a bien l'intention de relayer la contrariété, voire l'exaspération de Donald Trump vis-à-vis des alliés européens. Pierre Benazet.
Marco Rubio a expressément mis en doute l'utilité de l'OTAN pour les États-Unis. L'exaspération américaine s'est déjà traduite par l'annonce du retrait d'Allemagne de 5000 soldats américains, ce qui provoque de vives inquiétudes dans les rangs des Européens. Et le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, s'emploie à rassurer les alliés.
Je ne suis pas inquiet car c'est exactement ce dont nous discutons depuis plus d'un an maintenant. L'Europe se mobilise, le Canada se mobilise et nous dépensons davantage. Nous assumons davantage la responsabilité de notre propre défense et mettons fin à notre dépendance excessive vis-à-vis d'un seul allié. Il est donc juste que nous rééquilibrions cette situation afin que les États-Unis puissent eux aussi se recentrer davantage sur d'autres théâtres d'opération. Nous sommes donc tous dans le même bateau, mais cette dépendance excessive doit cesser. Nous sommes dans un processus structuré tout à fait normal.
Le Pentagone doit publier incessamment son modèle de force, un document qui détermine le volume des contingents prépositionnés dans le cadre de l'OTAN, et une réduction drastique serait vécue en Europe comme une menace pour l'existence même de l'Alliance Atlantique. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et d'autres partenariats se renforcent dans ce contexte. Ursula von der Leyen et Antonio Costa, les deux têtes de l'exécutif européen, sont arrivés au Mexique. Les dirigeants de la Commission et du Conseil européen rencontreront tout à l'heure Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine, pour signer un accord de libre-échange. Nathanaël Vitron, le Mexique, comme les 27, cherche de nouveaux partenaires dans un climat international largement perturbé par Donald Trump.
Ce huitième sommet entre l'Union européenne et le Mexique a lieu plus de 10 ans après le précédent et suite à une année 2025 marquée par les guerres commerciales à répétition. Or, le Mexique et l'Union européenne ont pour point commun d'avoir les États-Unis comme principal partenaire commercial. Ils voient donc l'un dans l'autre le moyen de réduire leur dépendance à un allié de plus en plus erratique. Ils ne partent pas de zéro. En 2025, les pays de l'UE et le Mexique ont échangé plus de 86 milliards d'euros de biens et de services. Pour renforcer leurs liens, les trois dirigeants vont signer un accord intérimaire sur le commerce, en fait une mise à jour des accords existants qui prévoit la levée de la plupart des droits de douane. L'accord devra encore être validé par le Parlement européen, mais le Mexique exportant peu de produits agricoles vers l'UE, cela devrait poser moins de problèmes que pour le Mercosur. Les deux blocs en attendent de nouveaux débouchés pour leurs entreprises. Côté européen, on insiste aussi sur le fait que cet accord est un moyen pour l'UE de diversifier ses approvisionnements en minéraux critiques.
Washington dit espérer que les efforts diplomatiques d'Islamabad permettent d'aboutir à un accord avec l'Iran. Un médiateur pakistanais est attendu à Téhéran. Aujourd'hui, certains progrès ont été accomplis dans les négociations selon l'administration américaine. En attendant, l'administration Trump est toujours mobilisée au Moyen-Orient et Taïwan en fait déjà les frais. Quelques jours après sa visite à Pékin, hasard ou pas, un responsable du Pentagone a révélé que les ventes d'armes américaines à Taïwan, dont la Chine revendique toujours le contrôle, sont suspendues en raison des besoins en munitions sur le front moyen-oriental. Le front iranien est calme pour le moment. En revanche, au Liban, les opérations militaires d'Israël dans le sud s'enchaînent. 6 personnes, dont une fillette et 2 secouristes, ont été tuées dans une nouvelle frappe proche de la ville de Tyr. En Turquie, un tribunal d'Ankara a suspendu la direction du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple, CHP, destituant notamment son chef pour des irrégularités présumées lors d'un congrès en 2023. Le CHP, qui dénonce un acharnement judiciaire orchestré par le pouvoir politique, croule sous les enquêtes et les procès depuis sa victoire aux élections locales de 2024. La direction déchue par la justice avait appelé les membres de son parti à se rassembler hier soir devant son siège à Ankara. Sur place, le reportage d'Anne Andlauer.
Sur la façade du CHP, où tous les étages sont éclairés malgré l'heure tardive, on déploie un portrait géant de Zuruzel, le chef du parti, celui que la justice vient de destituer. Pas la justice, corrige Dilek la cinquantaine.
Ce n'est pas une décision de justice. La justice est aux mains du pouvoir. C'est une décision politique, c'est celle de Tayyip.
La colère vise autant le président Recep Tayyip Erdogan que l'ancien chef du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, que le tribunal a remis à la tête du parti. Traître, vendu, crie la foule. Efsun, une jeune militante.
Kılıçdaroğlu a perdu toutes les élections et là il revient en léchant les bottes du pouvoir. Jamais le CHP ne gagnera avec lui. Quelle honte!
Pour le premier parti d'opposition turque, le tableau est sombre. Sa direction est suspendue. Son candidat à la présidentielle, Ekrem İmamoğlu, est en prison depuis plus d'un an. Mais pour Mehmet, un autre militant, la gravité de la situation dépasse le sort du CHP.
C'est un coup contre le CHP. C'est surtout un coup d'État contre la République de Turquie. La boussole d'un pays, c'est sa justice. Il n'y a plus de justice dans ce pays.
La direction du CHP, emmenée par Özgür Özel, assure qu'elle ne se pliera pas à la décision du tribunal. Un Anadolu Ankara, RFI.
Et le président turc a décidé aujourd'hui de fermer en pleine année universitaire une importante faculté privée du pays, l'université Bilgi d'Istanbul. En France, le Conseil constitutionnel sauve les ZFE, les zones à faible émission, pour limiter la circulation des véhicules les plus polluants dans les centres-villes. Les sages sauvent également les mesures de lutte contre l'artificialisation des sols. La droite et l'extrême droite ont tenté d'attaquer ces deux lois loi via des amendements, mais le Conseil constitutionnel a estimé que ces amendements étaient hors sujet. Il avait été saisi par les socialistes, les écologistes, mais aussi des députés du camp gouvernemental désireux de préserver des marqueurs écologiques du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour l'environnement et la santé, Anne Lassmann-Trappier de France Nature Environnement se félicite de la décision du Conseil constitutionnel.
Les EDF peuvent continuer à vivre leur vie. C'est une bonne nouvelle pour la santé. Elles ont fait baisser déjà en France et à l'étranger la pollution de l'air en ville de 30 à 40%. Donc c'est pas négligeable et ça permet vraiment de protéger la santé des personnes les plus vulnérables. Et puis, on a pas mal de remises en cause, des reculs sur la loi zéro artificialisation nette. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi, puisque l'urbanisation en France est galopante. C'est une des premières causes de disparition de la biodiversité. En fait, ça fait disparaître leur habitat. C'est aussi très mauvais pour la ressource en eau, par exemple, parce que souvent, on atteint des zones humides ou des cours d'eau. Voilà. Alors, c'est sauvé jusqu'à la prochaine tentative, puisqu'on sait que certains parlementaires reviennent à la charge sans cesse. Donc, non, c'est jamais terminé. Les reculs sur les sujets environnementaux et de santé sont réguliers et dans des prochaines lois, on peut s'attendre au retour de ce genre de propositions.
Anne Lassmann-Trappier de France Nature Environnement au micro de Jeanne Richard. Et puis Donald Trump avait qualifié Stephen Colbert d'épave pathétique devant être mis hors service. Et bien hier, c'était le dernier tour de piste de l'humoriste américain. Critique acerbe du locataire de la Maison Blanche. Le dernier late show pour Stephen Colbert, remercié par CBS. Certes, la chaîne a insisté sur le fait que sa décision de mettre fin au late show était purement financière, mais de nombreuses voix y voient la main de Donald Trump.
Hey! dans le cadre des Jeudis Juin. Principe Actif est mis à l'honneur pour la seconde année consécutive. 5 de vos émissions préférées et leurs animateurs s'emparent des platines le jeudi 4 juin à partir de 18h30 au Cube à Évreux pour une sélection musicale riche, variée, détonnante. Rejoignez-nous pour un moment partagé, convivial et festif. Le tout en totale gratuité. Bar et food sur site.
Révolutionne les relations entre les hommes en faisant tomber les barrières, les frontières. Nos vies, nos sentiments, notre quotidien risquent de devenir de moins en moins concrets et de plus en plus virtuels.
Principe Actif, le mix des cultures.
Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net.
وبين هضا بقدات خلات القمرة مبهورة في الصحراء بدات سبحان اللي صنعك صورة وسط نجوم شدات من عشطاروت الأسطورة ومن كل السعدات غزي الغيب غيب غيب الغزي الغيب في الغزي زغرد زغرادات خلات الغاشي ميسورة الولياء والسادات عدوا المحاسن المسطورة جابت الشهادات وغزي الغيب غيب غيب لغزي الغيب فيه وتولي وجميل نور يا شمس الليل تبغي تسافر تبغي تنير غزي الغيب غيب غيب غزي الغيب فيه
غزي الغيب تغيب وتولي وجميل وريان